nous nous retrouvons pour une série
consacrée. Nous attachons à quatre faits marquants de votre vie.
Passer une demi-heure ensemble pour.
Focus braque aujourd'hui son projecteur.
Focus. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Hélène Renard.
C'est pour commémorer l'anniversaire de la mort de l'écrivain français Valéry Larbeau que j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Michel Déon de l'Académie française, président de l'Association internationale des Amis de Valéry Larbeau. Monsieur Déon, bonjour.
Bonjour madame.
Il y a 50 ans, en effet, le 2 février 1957, s'éteignait à Vichy, sa ville natale, l'écrivain Valéry Larbeau. Pour commémorer ce 50e anniversaire, l'Association internationale des Amis de Valéry Larbeau, que vous présidez, a organisé le 1er et le 2 juin 2007 un colloque, une exposition, la remise du 41e prix littéraire Valéry Larbeau et toute une série de manifestations autour du livre et avec des écrivains, une fête du livre au fond. Cette association internationale existe depuis 1957. Quels sont les amis qui sont venus composer cette association ?
Oh, il a eu beaucoup d'amis dans les dernières années de sa vie, assez tragique, parce que vous savez qu'il avait été frappé par une paralysie. Il pouvait difficilement parler, seulement dire quelques mots, et il marchait avec beaucoup de difficultés. Mais il a été très entouré, et le milieu littéraire, qui savait quel rôle il a pu jouer entre 1910 et son attaque en 1932. Et le milieu littéraire savait quel rôle il avait joué et quel novateur il était et surtout quel lien international il avait été. Donc les amis se sont rassemblés autour de lui. On ne pouvait pas faire grand-chose de son vivant, que je dis de son vivant pour un homme qui est condamné à la chaise et plus au geste qu'à la parole. De son vivant, encore, on l'a entouré. Et dès sa mort, a été créée, surtout grâce à l'initiative de Marcel Arlan, une association internationale des Amis de Valéry Larbeau. Et là, on s'aperçoit que cette association s'étend aux 5 continents. Ce n'est pas, comme vous le disiez tout à l'heure, un auteur très connu, très lu. C'est un auteur que Stendhal appelait pour les happy few, pour les quelques-uns, Stendhal et Shakespeare, hein, pour les quelques-uns. Mais un auteur qui a, disons, 2 à 3 000 lecteurs en Europe, dans sa langue, quelquefois traduit, pas très très souvent, un auteur qui a 2 à 3 000 lecteurs régulièrement tous les ans, eh bien c'est un formidable auteur, c'est-à-dire quelqu'un qui va traverser les siècles, enfin du moins je le souhaite.
Mais et vous faites tout pour cela, en plus.
On fait tout pour ça.
Alors, parmi les amis, on va tout de même citer quelques noms, parce qu'à Canal Académie, nous aimons beaucoup nous souvenir des académiciens. Roger Caillois, Jacques de Bourbon-Busset, Marcel Arlan, vous l'avez dit, beaucoup d'académiciens de l'Académie française, en effet, et vous prenez ce flambeau. Est-ce que vous considérez que Valéry Larbeau est un auteur de dimension internationale parce qu'il est beaucoup lu et beaucoup traduit, comme vous voulez l'expliquer, ou c'est parce que c'est lui-même qui a donné à la littérature française une dimension plus large parce qu'il a traduit beaucoup de grands auteurs.
Je crois que c'est lui qui a plus donné qu'il n'a reçu. Oui. Ce qui est quand même très fréquent, les gens qui sont très généreux, on ne pense pas à leur envoyer l'ascenseur. Il a peu de lecteurs à l'étranger, sauf en Italie.
En Italie,
véritablement, il est...
Où il est allé beaucoup.
Il est allé beaucoup, il écrivait italien, comme il parlait et écrivait l'espagnol parfaitement. Et il s'était mis aussi à parler portugais et à lire portugais. Et ne parlons pas évidemment de l'anglais, parce que ça, il le savait parfaitement. Et une partie de son journal, d'ailleurs, est écrite en anglais, comme Stendhal aussi, qui s'amusait, lui, pour des raisons, disait-il, pour que la police ne puisse pas le lire si on visitait. Mais Valéry Larbeau, c'était pour le bonheur d'écrire en anglais, qui est un vrai bonheur, que je connais un petit peu aussi, moi. Et c'est curieux, c'était un polyglotte. Peut-être qu'il ne parlait pas d'une façon très courante dans la conversation, mais il l'écrivait, mais parfaitement. Son espagnol est remarquable, son italien aussi très très bien, et le portugais qu'il a appris pendant un mois, c'est d'ailleurs une anecdote que je peux raconter, c'est qu'il est arrivé au Portugal sans savoir un mot de portugais, mais parlant bien espagnol. Et c'est Gomez de la Serna qui l'attendait là, et on devait lui faire un grand banquet. Il a dit, écoutez, je voudrais m'habituer un peu au pays, donnez-moi un mois, et puis nous ferons un grand dîner, et puis nous parlerons. Et pendant un mois, il s'est enfermé dans un hôtel, un grand hôtel de Lisbonne, et il a appris le portugais.
Formidable. Hein?
Oui, mais vous savez que le latin, le portugais n'est pas une langue très difficile pour ceux qui connaissent le latin.
Et surtout, son éducation l'avait déjà initié se mettre en plusieurs langues parce que sa mère le faisait beaucoup voyager.
La difficulté quand on parle italien et espagnol, c'est...
Ne pas confondre les mots.
Pas confondre les mots, et ça, c'est moi qui ai vécu dans les trois pays, je peux dire que j'ai quelquefois vraiment du mal. Et à ce banquet qui était donné en son honneur, arrangé par José Osorio de Oliveira et Sad Queiroz, tout d'un coup, il s'est levé puis il a fait un discours en portugais. À la super générale, les Portugais, qui sont merveilleusement habiles, il y a une mécanique intellectuelle chez les écrivains portugais formidable, ils parlent tous plusieurs langues avec une perfection extraordinaire. Et là, ils ont été vraiment très très frappés, parce qu'eux, on ne leur envoyait pas l'ascenseur comme venait de le faire Larbaud.
Mais ça, le portugais lui ouvrait aussi le Brésil, c'est-à-dire, est-ce qu'il a fait connaître des écrivains brésiliens?
Là, tout d'un coup, je n'ai plus tout à fait ça en mémoire. Probablement, il a fait connaître des Sud-Américains, et il a fait connaître surtout beaucoup d'Espagnols.
Beaucoup d'Espagnols.
Oui.
Et puis, alors aussi, beaucoup d'Anglais et d'Américains. Peut-être on peut citer quelques noms. James Joyce, évidemment, dont on sait que...
Ah ben ça, c'est... Là, vous touchez à un point extrêmement intéressant que moi, j'aimerais bien éclairer.
Éclairer.
La critique. Je veux dire que Valérie Larbaud a travaillé un gros livre, un livre qui était le livre peut-être le plus important de sa vie, qui sont les poèmes et les souvenirs de A.O. Barnabas, personnage imaginaire, avec lequel on l'a trop souvent confondu en pensant que c'était une autobiographie ou ce qu'on appelle aujourd'hui d'un mot abominable, fact-fiction. Et c'est un livre considérable. C'est un livre qui bousculait toutes les règles du roman. Pensez que c'est un roman qui commence par des vers. Des vers qui n'ont rien à faire avec la suite. Ensuite, il y a une nouvelle qui n'aura rien à faire où simplement le personnage de Barnabas apparaît. Et puis ensuite commence véritablement le journal de Barnabas, qui est un prodigieux roman, une promenade dans l'Europe, dans la littérature, dans les musées, dans les arts, avec et parmi les femmes. Et c'est un livre admirablement fait qui cassait un petit peu le roman naturaliste de cette époque-là. Pensez, c'est dans les années 1907, 8, 9, 10, 13. Barnabas a paru en 1913. Et c'était une révolution dans le roman. Mais je ne suis pas sûr qu'on s'en soit aperçu. Mais il y a quelqu'un qui s'en est très bien aperçu, c'est James Joyce.
Et, il a noué un lien d'amitié avec Valérie Larbaud.
Un lien d'amitié. Et ensuite, Joyce avait déjà écrit des romans et des nouvelles remarquables, d'ailleurs, très très belles, mais dans une forme très très classique. Et moi, je prétends que c'est la lecture de Barnabas qui lui a montré qu'on pouvait faire éclater le roman. On pouvait donner au roman plusieurs teintures, plusieurs voix, et surtout de briser un petit peu les barrières qui enfermaient le récit. Ulysse a été publié en 1923, c'est-à-dire dix ans après Barnabas. Et moi, je prétends que le vrai grand novateur, c'est Larbaud. Non seulement il a été le novateur, mais il ne s'en est pas vanté, il ne l'a pas dit, personne ne l'a vu, comme toujours, la critique ne fait jamais attention à rien. Mais en plus, quand il s'est agi de traduire Ulysse en français, il y a eu une première équipe qui a travaillé à cette traduction qui était un peu du mot à mot. Ensuite, c'est Valérie Larbaud, en compagnie de Joyce, qui a revu toute cette traduction et qui l'a perfectionnée, si bien que vraiment l'édition française est autant celle de Larbaud et de Joyce.
C'est une œuvre à deux, c'est ça.
C'est vraiment presque une œuvre à deux. C'est pour ça que j'ai frémi quand, dernièrement, on a publié une autre traduction de James Joyce, de Ulysse. Parce qu'il n'y en avait d'abord absolument aucun besoin. Mm. Étant donné que la vraie traduction, c'est celle approuvée par Joyce en 1923.
Qui est allé à Vichy retrouver Larbaud. Enfin, faut dire qu'il habitait le Bourbonnais, Vichy.
Oui, alors là, malheureusement, il a habité un peu le Bourbonnais, mais ça, c'est dans les années 39-40, quand la guerre a été déclarée. Et Joyce n'a pas voulu retourner en Irlande, ni en Grande-Bretagne. Il se l'était juré, et il a vécu en France la plupart du temps, et ensuite à Trieste. Et il s'est réfugié tout près de Vichy, mais à cette époque-là, Larbaud ne pouvait déjà plus parler.
Hélas.
Ils ne se sont presque pas vus.
Michel Déon, on sent à vous entendre parler que vous aimez beaucoup lire Valéry Larbaud. Quelles sont les qualités littéraires, justement, que vous lui trouvez ?
Eh bien, évidemment, ce sont un peu toutes les qualités qu'on ne trouve pas aujourd'hui.
Il y a des exceptions, peut-être.
qu'on ne trouve plus aujourd'hui. D'abord, c'est un style, c'est une langue. Je ne dirais pas presque parfaite, parce qu'il n'y a pas de langue parfaite, mais c'est une langue non pas savante non plus, car elle est d'un naturel, elle est à la portée de tout le monde, elle est surtout d'une clarté absolument parfaite, et elle est extrêmement musicale, parce que quelqu'un qui avait beaucoup d'oreilles, ses poèmes sont très beaux, et charmants, et drôles, et tout. Et vraiment, l'écriture de Larbaud, c'est confidentiel, c'est quelqu'un qui vous parle à l'oreille, vous comprenez, c'est pas quelqu'un qui fait des grands gestes, qui se lance dans des drames, non, c'est quelqu'un qui vous parle à l'oreille, pour vous dire des choses à la fois charmantes, poétiques, souvent assez drôles même, et aussi, disons-le, extrêmement sensuel. C'était un sensuel, il parle des femmes comme peu d'écrivains savent en parler, et il les aimait surtout très jeunes.
Chacun ses idées sur ce point de vue. C'est vrai qu'il s'est essayé dans plusieurs genres, en fait, littéraires, puisque d'abord, il a évidemment rédigé des romans, mais aussi des essais critiques, des nouvelles. Il tenait un journal, il rédigeait des poèmes, comme vous le disiez. Quel aspect de lui préférez-vous ? Vous l'aimez mieux dans ses nouvelles ou dans ses poèmes ?
Écoutez, alors là, je ne vais pas répondre à votre question, je vais dire j'aime tout.
J'aime tout, bon. Est-ce qu'on peut discerner des thèmes, les principaux thèmes de son œuvre ?
Non, c'est pas quelqu'un qui avait des thèmes, n'est-ce
non.
pas ? C'est quelqu'un qui racontait une histoire, comme quelqu'un au coin du feu, ou bien au soleil couchant, ou sur une plage, ou en marchant dans la forêt, vous raconte une histoire. Et c'est une attention extrême à la beauté des choses. Par exemple, son journal, c'est vraiment la description, les descriptions de Bruxelles, c'est absolument magnifique chez lui. Et c'est la façon dont il parle de l'Espagne, c'est contraire de tout ce qu'on dit, il n'y a pas de torero, il n'y a pas de belle lanceuse, de gitane, non, c'est au contraire quelque chose d'assez intime, toujours. Lui est un personnage qui préservait et cachait son intimité. Et en même temps, il était l'homme qui voyait à travers les autres comment ils étaient réellement. Il y avait une grande perception, une grande acuité psychologique. Et surtout, il avait un merveilleux don poétique. Vous savez, la poétique, la prose peut-être aussi du poème, et surtout, et c'est toujours une phrase d'une limpidité, d'une sûreté d'expression, et jamais avec un mot biscornu qui est là pour faire très chic dans la phrase. Et c'est ça qui est intéressant chez Larbaud, c'est qu'il a un style de tous les temps.
C'est ça qui, sans doute, va le faire durer. Michel Déon, on peut visiter à Vichy la bibliothèque de Valéry Larbaud. On peut même y faire des recherches. Il y a un fonds que des chercheurs utilisent. Que contient cette bibliothèque ? Il était grand lecteur, donc quelles sont les richesses de sa bibliothèque ?
Eh bien, les richesses de sa bibliothèque, ce sont les livres. Je ne crois pas qu'on ait tout gardé. En fait, il faudrait avoir ici le catalogue exact. On a gardé surtout les éditions étrangères qu'il passionnait, son Dante parfait, évidemment beaucoup de choses comme ça, mais beaucoup de poètes, Beaucoup, beaucoup. Et puis des romanciers étrangers, qui tous n'ont pas survécu à son admiration, mais qu'il a traduit ou dont il a parlé, qu'il a étudié. Et ça, je crois que là où il a été le meilleur, c'est probablement avec les romanciers gréco-latins, enfin bon, plutôt latins, disons, surtout les Italiens, les Espagnols, les Portugais aussi. N'aimait pas tellement les éditions originales, les choses rares, les beaux papiers, mais moi j'aime ces beaux papiers et j'aime ces éditions rares depuis
vous êtes collectionneur vous-même de ces éditions rares.
Je suis collectionneur, mais les livres de collection, vous savez, sont des livres qu'on n'ouvre pas, enfin bon, ou très rarement. Tandis que lui, tous ses livres, on voit qu'il les fréquentait, on voit qu'ils sont usés un peu, pas abîmés d'ailleurs, c'est extrêmement soigneux, mais ils ont vécu dans des maisons que pas toujours très bien chauffées, surtout pendant l'occupation, et ils sont quelquefois un petit peu défraîchis. Mais défraîchis comme des choses que l'on a aimées, et quand on voit ces livres sur lesquels il y a une page un peu froissée, on se dit, mon Dieu, c'est sa main malhabile dans les dernières années qui a dû froisser un peu,
qui a touché
ce livre-là. Et là, évidemment, il n'y a pas les 10 000 ou 20 000 ou 30 000 livres qu'il avait autour de lui. Mais il y a la crème de ce qu'il
aimait.
Et surtout ce qu'il aimait et ce sur quoi il revenait toujours.
On poursuit dans un instant cette rencontre avec Michel Déon autour de Valérie Larpeau.
Nous venons de vivre une élection présidentielle qui a passionné les Français et de clore la présidence de Jacques Chirac après 12 années à l'Élysée. Henri Amouroux, fin observateur de l'actualité en tant que journaliste, chroniqueur au Figaro et historien, se livre à l'exercice de narrer les trois fins de règne, ce sont ses propres termes, du général de Gaulle, de François Mitterrand et de Jacques Chirac, où l'on comprend mieux les différences de personnalité de ces trois hommes, mais aussi l'évolution de la société française dans ses rapports à l'institution présidentielle. L'interview s'est faite en quatre temps, d'abord une présentation générale du livre d'Henri Amouroux, « Trois fins de règne », puis une émission consacrée à chacun des trois présidents qui ont passé plus de 10 années à l'Élysée. Criblées d'anecdotes et de commentaires, les interviews d'Henri Amouroux ne manqueront pas de vous surprendre. Ces émissions sont en libre téléchargement sur Canal Académie.
Michel Déon, vous présidez le jury de ce prix Valérie Larpeau qui va être décerné au mois de juin 2007. Quels sont les membres qui le composent et qui vous accompagnent ?
Ah ben alors là, nous,
quelques-uns.
Quelques-uns. Mais enfin, je peux dire qu'à l'origine, il y a Roger Grenier. Il n'y a
oui.
plus personne des origines de la création du prix.
Oui, bien sûr.
Mais il y a Roger Grenier, qui est un très, très bon connaisseur de Valérie Larpeau. Il y a Christian Giudicelli, qui est aussi un excellent connaisseur. Jean Blot. Il y a les nouveaux, c'est-à-dire qu'il y a Paul Constant. Il y a Olivier Germain-Thomas. Tous ce sont des écrivains dont l'œuvre est très différente de celle de Larpeau, mais qui ont une bonne approche de Larpeau, qui ont toujours aimé. Plusieurs ont été d'ailleurs couronnés par
le prix
Larpeau.
Voilà.
Olivier Germain-Thomas et Paul Constant sont des anciens prix Larpeau, et qui en somme viennent, en se rassemblant autour de Larpeau, viennent un peu payer leurs dettes.
En tout cas, ce sont des amis que vous avez plaisir à retrouver pour ce prix. C'est aussi une fête.
Oui, c'est une fête. Mais vous dire, quand on aime quelqu'un, tout d'un coup, c'est un trait d'union merveilleux. Parce que c'est un sujet de conversation, parce que ça efface toutes les autres bisbilles de la vie littéraire. Et qu'il n'y a qu'une seule chose, nous aimons Larpeau, et voilà. Et on veut assurer une survie à son œuvre. Moi, je crois qu'elle est assurée. Et peut-être le sera-t-elle de plus en plus au fil des années, parce que...
Quelquefois, il y a un purgatoire.
Comme toujours,
voilà.
D'abord, il y a un purgatoire, et puis nous n'avons pas des grands, grands moyens pour faire. Mais là, il y a par exemple, pour la prochaine réunion, vendredi et samedi, il y a des gens qui viennent de tous les pays. Enfin, il y a des Allemands, des Espagnols, des Portugais, des Américains, des Italiens qui viennent exposer des travaux, je dirais, universitaires. Là, peut-être un peu sévère. Et vous savez, c'est toujours les travaux universitaires, et c'est toujours un petit peu le petit bout de la lorgnette. Mais,
oui, c'est une nécessité aussi.
C'est une nécessité, voilà, et c'est très bien. Et puis, il y a des écrivains autour de lui. Enfin, ça, il y a aussi beaucoup d'écrivains. Et tout le jury, et Jean-Marie Laclaftine, qui d'ailleurs va me succéder, parce que moi, je commence à être un peu vieux pour mener tout ça. Laclaftine est un écrivain de 40 ans. Et donc, c'est aussi parmi cette génération-là qu'il faut pêcher des larbaldiens.
Cette commémoration nationale organisée à Vichy autour de Valérie Larbaud présente aussi une exposition sur le thème du journal intime. Qu'est-ce que vous aimez dire sur le journal intime ? Est-ce que c'est un art que vous pratiquez vous-même ?
Oui, mais intime.
Intime, oui, bien sûr.
Bon, mais après, oui, je pas. Oui,
beaucoup c'est d'écrivains font, tiennent leur journal.
Oui, le plus souvent, ça n'a pas un grand intérêt. Moi, je l'ai tenu irrégulièrement, mais d'abord aussi parce que j'ai beaucoup bougé et que je ne pouvais pas toujours tenir un journal. J'ai beaucoup bougé toute ma vie. Je m'occupe d'ailleurs de le nettoyer. Enfin,
oui, c'est ça.
Clarifier.
Tout n'est pas destiné à publication,
non,
par définition.
Non, tout n'est pas destiné à publication. Ce que les gens attendent, c'est généralement des détails croustillants ou bien...
Oui,
des,
ou littéraires, ou enfin des appréciations.
Des vacheries, là. C'est
pour mettre un peu pour faire vendre.
Voilà, oui, en tout cas pour le journal de Morand, le journal inutile, ce qui a intéressé la presse, la critique, ça a été les coups de pied d'âne de Morand, les vacheries, les critiques. Bon, c'est tout ce qu'on met dans un journal intime et qu'on ne veut pas dire de son vivant et qu'on laisse peut-être à plus tard.
Mais celui de Valérie Larbaud, il ne l'avait jamais destiné à publication. Il s'en est occupé après, alors, pour qu'il soit publié.
Non, lui-même, non. Il le gardait pour lui. C'était aussi pour mémoire. Vous savez, quand on est mêlé à une vie littéraire assez intense, il y a beaucoup de choses qui s'effacent un peu et c'est assez intéressant de pouvoir les retrouver. Même pour moi, je tenais un journal comme ça et de temps à autre, je plonge dedans. Et je suis étonné de voir tout ce que j'ai oublié et dans quelles circonstances, tout d'un coup, ça m'est passé sous les yeux ou c'est sorti de ma tête. Donc c'est ça aussi l'intérêt pour un écrivain, c'est d'avoir ce mémorandum. Je crois que Larbaud n'a pas pu le continuer, évidemment. Et ça s'est arrêté en 1932, quand il a été frappé par cette crise. Et c'est son journal à lui, il n'a pas eu le temps de le réviser une fois, mais l'écriture en est toujours d'une pureté, d'une légèreté. C'est absolument impossible d'expliquer le style de Larbaud, sinon en disant qu'il est tellement intelligible, tellement clair, tellement délicat, et la pensée en est si légère que vraiment c'est un véritable bonheur. On ne s'aperçoit pas qu'on lit quelque chose d'absolument de très subtil et tout. On est complètement pris par Larbaud.
Pour terminer cette émission, Michel Dehon, je voudrais vous citer trois petites phrases de Valérie Larbaud et vous demander si elles appellent de votre part quelques commentaires. Sa première phrase que j'ai trouvée jolie, « De mes 18 à 21 ans, la librairie a été mon principal lieu de plaisir. »
Oui, par librairie, il voulait dire... il voulait dire, bon, une librairie, pas une librairie, il voulait dire aussi la bibliothèque.
La bibliothèque, sans doute.
Plutôt
oui.
La bibliothèque. Le mot librairie a changé. Vous savez, autrefois, il n'y avait pas des éditions, il y avait des librairies, librairie Plon, librairie Kalman-Lévy, et puis c'est devenu édition.
C'était des éditeurs, en fait.
C'était des éditeurs. Et le mot d'éditeur, autrefois, était réservé à ceux qui, à l'intérieur d'une maison, travaillaient les manuscrits qu'on leur proposait, proposaient des coupures ou suggéraient au contraire des additions. Ils étaient les éditeurs d'un livre. Et maintenant, l'éditeur disparaît. L'éditeur du livre disparaît. Maintenant, on apporte un manuscrit et hop, ça part pour la fabrication. Et c'est pour ça que nous avons tellement à la fois de coquilles dans les livres et tellement de bêtises et d'erreurs. Non, je crois que lui, quand il disait la librairie, il voulait dire la lecture. Je pense que la lecture, en effet, était sa grande passion, non seulement en français, mais dans plusieurs langues. Et puis, je pense qu'il devait fréquemment se murmurer dans la tête les vers qu'il aimait tant, de Ronsard, de Malherbe, de Maurice Sève, et de tous les poètes qu'il a honorés, sur lesquels il a écrit des choses admirables.
Et vous-même, c'est un de vos plaisirs d'aller flâner dans les librairies, alors au sens où on l'entend aujourd'hui?
Oui, moi je continue. Peut-être un tout petit peu moins qu'autrefois, parce que je suis malheureusement accablé de services de presse, c'est-à-dire que je dois recevoir 500 à 600 livres par an, et je n'ai pas besoin de vous faire un dessin pour vous dire que je ne lis pas 600 livres par an. Mais je continue malgré ça à chercher dans les librairies des choses qui m'intéressent. Je continue même, bien que ce soit devenu très pauvre, le long des quais, les bouquinistes, de temps à autre. Et il y a, vous savez, ce phénomène très particulier, je peux marcher des heures sur le quai sans voir un seul livre qui puisse m'intéresser. Et puis tout d'un coup, je m'arrête pour allumer une cigarette ou réfléchir ou regarder la scène. Et puis je me penche à côté. Et
il y a un petit trésor.
Il y a un petit trésor.
Michel Démon, puisqu'on parle du plaisir, Larbaud, on l'a compris, aimait les plaisirs de qualité. Il a d'ailleurs intitulé l'un de ses livres « Beauté, mon beau souci », qui reprend un vers de Malherbe. Est-ce que la recherche de la beauté, c'était le programme de vie de Larbaud?
Ah, je pense que oui, c'est le programme de vie de beaucoup. Pas tous les écrivains aujourd'hui, si on en juge par le côté noir et sombre de tant de livres, mais c'est certainement l'idéal d'énormément d'écrivains de l'époque de Larbaud. Et cela reste encore aujourd'hui. Enfin, de temps à autre, on a le bonheur de tomber sur un livre qui est la recherche du bonheur et la recherche de la beauté.
De la beauté, Dieu merci. Troisième phrase de Larbaud, la lecture vice impuni. Alors il disait, une espèce de vice, en effet, la lecture, comme toutes les habitudes auxquelles nous revenons avec un sentiment vif de plaisir, dans lesquelles nous nous réfugions et nous isolons, et qui nous consolent et nous tiennent lieu de revanche dans nos petits déboires. Alors la lecture comme vice impuni.
Ah oui, non, c'est un vice, la lecture. Et même peut-être simplement la présence d'un livre dans la poche, c'est quelque chose qui est essentiel. Moi, qui malheureusement, souvent prendre des avions, j'ai toujours un livre. Mon dernier voyage, j'ai cru que j'avais pris un livre avec moi. Et j'ai passé 2 heures dans un avion, mais malheureux comme tout. Parce que même si je ne lisais pas le livre, j'avais besoin de sa présence, n'importe quel livre, j'avais besoin de la présence d'un livre dans ma poche ou devant moi. C'est pas toujours que je le lis, ou enfin j'en lis 3 pages, et puis je réfléchis, je rêve, je regarde les nuages. Et là, tout d'un coup, l'absence, de par une bêtise, une étourderie de ma femme, peut-être, je l'ai pas trouvé dans ma serviette, et là, j'étais perdu, j'avais même pas un journal, un journal, une chose tout à fait différente. Mais un livre, c'est une présence rassurante.
Michel Démon, merci beaucoup pour cet entretien autour de Valérie Larbaud, puisque vous êtes le président de l'Association internationale des Amis de Valérie Larbaud. On pourra trouver sur le site de Canal Académie toutes les références qui permettent justement de mieux connaître cet auteur. Si on veut le lire, Michel Démon, moi j'ai une édition de la Pléiade, elle commence à dater un peu. Est-ce qu'il y a d'autres éditions pour ses œuvres complètes, ou est-ce que dans le livre de poche on trouve ses œuvres?
Non, il y a une édition complète de ses œuvres. On les trouve aussi dans les livres de poche, dans folio, beaucoup plus dans folio que dans les livres de poche. Vous le trouvez aussi dans des petites éditions. J'ai remarqué une maison d'édition tout à fait charmante, avec beaucoup de goût. Je ne sais pas qui fait ça s'appelle Le Sillage. Ils viennent de publier une version d'Alaine, préfacée par Bernard Delvail, le poète Bernard Delvail, qui malheureusement est mort il y a 2 ans. Je trouve ça extrêmement rassurant de voir que de jeunes éditeurs prennent le risque de publier un texte de Larbaud qui a déjà été publié 5-6 fois. Il y a des livres de Larbaud dont j'ai 10 éditions, par exemple ce merveilleux roman Fermina Marquez, je crois que je dois en avoir une quinzaine d'éditions.
Édition, oui.
En France, bon, plus toutes les éditions étrangères, parce que c'est probablement le livre le plus connu de lui à l'étranger, Fermina Marquez. Donc on le trouve, mais c'est aussi un plaisir de chercher un livre.
Bien sûr, je ne vous le fais pas dire. Puisque vous parliez d'Alaine, un tout petit mot pour expliquer ce que ça veut dire tout de même à nos auditeurs. auditeurs, A2LEN.
A2LEN, oui, c'est un raccourci. Ça veut dire tous ensemble, si vous voulez.
Oh, on y retrouve la racine anglaise, saxonne.
La racine anglaise, tous ensemble. Et ça, c'est la devise du Bourbonnais.
Voilà, c'est la devise du duc Louis II de Bourbon, oui, qui était en captivité en Angleterre et qui nous invite donc à être tous ensemble. Alors, tous ensemble, Michel Déon, c'est ce qu'on va faire pour défendre la mémoire de Valérie Larbaud. En tout cas, sur Canal Academy, nous étions très heureux de vous recevoir.
Merci bien.